au bout du petit matin, bourgeonnant d'anses frêles, les Antilles qui ont faim, les Antilles grelées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouées.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies, chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr. Voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, Jukebox mettra le cap sur les Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe, mais à la manière d'Aimé Césaire, en retournant la carte postale touristique trop souvent réduite aux eaux turquoises, sable fin, cocotiers, rhum et robe madras. Dans les années 1960-70, ces nouveaux départements français sont traversés de fortes tensions politiques et sociales afin que soit enfin reconnue l'identité créole et abolie les discriminations. La musique s'en mêle, elle qui depuis toujours avait accompagné le chant des esclaves et l'émancipation de ces îles et dont une jeune génération ressuscite des rythmes endiablés pour porter ses revendications. Dans cette histoire, on croisera un CRS, une éruption législative, de l'eau bénite, des barriques de vin et des coquillages volants. Ce soir 1967-1974, les cadences troubles des Antilles françaises. Ce soir-là, à l'inverse du ciel, lourd et nuageux, elle est sortie d'humeur légère et autour d'elle, rien ne semble lui résister. Elle sent le regard des hommes comme des femmes s'accrocher à ses épaules et à ses hanches. Autour d'elle, Pointe-à-Pitre s'enfonce doucement dans le soir et la chaleur à peine brassée par les alizés. Dans les rues piétonnes du centre, les vendeurs de bijoux fantaisie, d'objets de pacotille, de fruits ou d'épices remballent leurs marchandises. Au détour d'une rue, elle débouche place de la Victoire, principale place de Pointe-à-Pitre, baptisée ainsi en 1794 pour célébrer la fin de l'esclavage et la lutte des sans-culottes. C'est un vaste espace circulaire, bordé au sud par la Darse où atterrissaient autrefois les premiers hydravions à destination de l'Europe et où les pêcheurs vendent thon ou langoustes. Bordée de jolies maisons de style néocolonial, c'est aussi là que jadis, lors de la Terreur, avait été installée une guillotine. Cette place, elle la traverse, sans un regard, pour le monument aux morts guadeloupéens de la guerre de 1914. Elle semble juste heureuse et désireuse de profiter, insouciante, de la nuit d'été qui tombe sur la Guadeloupe. Au loin, elle entend de la musique s'échapper d'un bar dont elle pousse la porte. Au comptoir, un type demande « Bah moine, un CRS s'il vous plaît ». Oublier les forces de l'ordre, les forces de l'ordre casquées qui, 4 ans plus tard, en 1967, interviendront brutalement dans les environs. Non, pour l'heure, un CRS, ça n'est rien d'autre que l'alliance pacifique du citron, du rhum et du sucre. Elle hésite et puis non, il est trop tôt pour le rhum. Ce qu'elle veut pour l'instant, c'est zouker, s'amuser, s'oublier. Alors elle danse et elle oublie.
We gade yo se bel negres la, yo ka gamme yo ka bigine. Yi gade yo se bel chabina, ne yo ka pasizye nan ka rache. Gade yo se ti kabres la, me pa trop se yo pou zot pa tremble. Se yo bote, cher Guadeloupe la, pou nou adore yo e admire yo.
Se yo men,
ki ka fe nou rampe tan zan tan.
Se yo men,
ki ka fe nou mache bien souvan. Qui a fait nous marcher de temps en temps?
C'est eux-mêmes.
Qui a fait nous ramper bien souvent?
Avec les chabines, les métis comme avec les noirs, Yoka Biguine, autrement dit, je danse la Biguine, 1963, par celui qu'on surnommait le Charles Aznavour des Antilles, le Guadeloupéen Joseph Lacide. La Biguine, l'un des nombreux genres musicaux accouchés par les Antilles françaises. Et puisque, comme le disait Lacide, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, prenons la Biguine au pied de la lettre. La biguine et son style chaloupé et festif étaient nés vers le milieu du 19e siècle à Saint-Pierre, l'ancien grand port de la Martinique, prenant rapidement le pas sur les autres danses traditionnelles. La biguine qui connaîtra un immense succès à Paris dans l'entre-deux-guerres, à l'époque des bals et des cabarets coloniaux, notamment le bar Blomé, plus connu sous le nom de Bal Nègre, un club de jazz situé dans le 15e arrondissement fréquenté par les Antillais de la capitale, puis dans le sillage de la Bohème de Montparnasse par des foules de curieux, tandis qu'en 1931, l'exposition coloniale organisée au Bois de Vincennes consacrera la fièvre métropolitaine pour cette danse. La biguine, dont le mot dériverait non de l'anglais to begin, commencer, mais plutôt du béguin, ou plus exactement du verbe embéguiné, qui, au XIXe siècle, signifiait inspirer une folle passion, mais qui, encore plus tôt, au Moyen-Âge, désignait le fait de s'envelopper la tête d'une étoffe à la manière des religieuses qu'on trouvait dans les pays flamands. Au fond, tout est dit. L'amour ou la religion de l'amour en quelque sorte, à travers la danse, tant la biguine était devenue jusqu'à ce début des années 60, la danse des Antilles françaises, danse de la séduction et des déhanchements lascifs et rapides. Les Antilles, où la musique depuis toujours et partout racontait l'histoire de ces îles, à commencer par l'époque où des multitudes laborieuses y avaient été déversées par les vaisseaux négriers, ces méchants bateaux.
Oh,
Méchant bateau, le chanteur André Mailly et le saxophoniste Camille Soprane, publié dans les années 60 par le producteur Cellini et son label Ozonde, se souvenant des bateaux négriers qui, des siècles durant, avaient transporté vers les Amériques des millions d'esclaves africains.
Je représente la vivant qui passe à déjà l'aliment à gauche. Moi, mettez les dames au comptoir des gauches.
C'est au cours de sa deuxième transatlantique, à l'automne 1493, que Christophe Colomb avait découvert celles qui deviendront les Antilles françaises. Un premier îlot aperçu en novembre est baptisé Désirade, puis c'est Marie-Galante, nommée d'après son navire amiral. Le lendemain, il mouille au large d'une île plus grande et montagneuse qu'il baptise Guadeloupe en hommage à un monastère d'Espagne. Ce n'est en revanche que 10 ans plus tard, au cours de son quatrième voyage, qu'il tombe sur la volcanique Martinique. Les Espagnols, qui à l'époque se désintéressent de ces îles dépourvues d'or, laissant les corsaires et flibustiers européens y commercer avec les tribus locales, lesquelles sont décimées par les maladies véhiculées par les nouveaux venus. Puis les Français débarquent vers 1630 et importent massivement de la main-d'œuvre en provenance d'Afrique de l'Ouest. Des centaines de milliers d'esclaves que les nouveaux colons entassent dans des habitations, autrement dit des exploitations de tabac, de café, mais surtout de canne à sucre, culture la plus rentable et qui s'impose rapidement comme quasi monoculture. Soumis à la toute-puissance des maîtres, travaillant fer au pied dès 4 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, ces forçats sont considérés comme des meubles selon le code noir promulgué par Colbert, pouvant certes posséder un petit pécule ou se marier entre eux, mais surtout être achetés, revendus, donnés, etc. Ils servent aussi à divertir leurs maîtres, leur jouant de la musique, comme des quadrilles, ces danses françaises très en vogue au 19e, dans lesquelles 2 ou 4 couples effectuent des figures. Les quadrilles, dont les esclaves eux-mêmes raffolent, les jouant de manière plus chaloupée et faisant annoncer et rythmer les différentes figures par un chanteur appelé commandeur. Une fois affranchis, ils en perpétueront la mémoire, comme cette quadrille enregistrée en 1972 par le commandeur Amboise Guala, accompagné du violoniste Élie Cologet.
En arrivant, balancez les dames. Au baguette la dame, sous baguette la main, les dames.
La quadrille, qui, pratiquée par les Noirs libres et esclaves dans la première moitié du 19e siècle, avait beaucoup contribué à combattre l'esclavage, dont une première abolition, décrétée en 1794 par la Convention, peine à s'imposer. Il faut attendre 1848 pour qu'elle soit effective partout, aux Antilles françaises, grâce à l'action acharnée de Victor Schœlcher, un bourgeois alsacien. Schœlcher, qui deviendra les années suivantes député de la Martinique et de la Guadeloupe, dont les restes sont conservés au Panthéon et dont Aimé Césaire comparaissait le verbe à une balle explosive. Victor Schœlcher, célébré ici en chanson par le chanteur Félix Valvert.
Le monde civilisé dit nous, oui c'était l'esclavage, en joue la joie éclatée, nous mandait ça qui dit, yo dit nous c'est la liberté, celle j'étais débarquée, aïe, depuis joue là, la liberté, nous peut pas aller enfin mes amis, nous sommes des citoyens, grâce à l'île en état là, nous qu'a fêté. Mais pas oublier les Antilles, oui, vive Selchet. Nous finis musiciens, avocats et médecins. Yo apprend nous marcher au pas, sac au dos, oui, soldat. Yo mène nous d'Adanel et à monter casino. Yo montré nous tirer fusil, oui, pour la liberté. Aïe, des bijoux là. la liberté nous peut pas aller enfin. Mes amis, nous sommes des citoyens. Grâce à l'île en état là, nous qu'a fêté. Mais pas oublier les Antilles. Oui, vive Seychelles. Contempler son œuvre, quitter que de temps en temps content, mais déçu trop souvent, quitter blé pour nous tous, l'égalité des hommes, quitter coincé toi, mot écrit, à sous ces mérites-là, et depuis jour-là, la liberté nous peut parler enfin, mes amis, nous sommes des citoyens, grâce à l'île en état là. Mais pas oublier les Antilles. Oui, vive Seychelles.
1848, hommage antillais à Victor Schœlcher, enregistré en 1954 par l'orchestre de Félix Valvert, originaire de Basse-Terre en Guadeloupe. La fin de l'esclavage et l'accession de tous les habitants des Antilles à la citoyenneté française ne correspond pas, pourtant, à l'établissement d'une société égalitaire, loin s'en faut. Un nouveau prolétariat urbain, petits paysans et ouvriers, côtoie une classe montante, une bourgeoisie intellectuelle métisse, on dit mulâtre, à côté de l'aristocratie des descendants des planteurs blancs, les béquets. Ces derniers connaissent d'importants revers lorsque la concurrence du sucre extrait de la betterave d'Europe entraîne la fermeture de nombreuses plantations locales qui se reconvertissent pour certaines dans la production de rhum. Le rhum dont la Martinique devient le premier exportateur lorsqu'en mai 1902, à quelques jours d'élections législatives, la montagne Pelée entre en éruption faisant 30 000 morts et signifiant d'une pluie de cendres la fin de la domination de Saint-Pierre sur les Antilles françaises, Fort-de-France devenant la capitale économique et culturelle de l'île.
Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront. L'eau nue emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins, la plage des songes et l'insensé réveil.
Les élites noires, de leur côté, réclament une réelle politique d'assimilation. On croit alors aux vertus de la République. Puis le temps passe. Les plus radicaux prônent l'autonomie, pas encore l'indépendance. Il faut finalement attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que sonne la mobilisation anticoloniale. En 1946, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion deviennent des DOM, départements d'outre-mer, accédant dans la foulée à la sécurité sociale.
Maestro, s'il vous plaît, El Bougal.
On ne veut pas, madame, je veux bien, nous, madame, c'est celui-là.
Général, c'est là yo cap payé, location familiale, l'agent vient travailler, congé payé aussi, c'est là qui t'es pour calme, pourtant c'est le contraire, les ou pointé ou c'est dit, l'entrée en cinéma, tellement marchand bonbon, qu'à occuper ces places-là, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité. C'est ça qui nie mon dos, c'est le lieu de rendez-vous.
prétexte concubé, alibi pommaillé. Yo ka pati le matin, yo ka viré en toise. Et puis yo ka déclaré, dossier yo te égaré. Alors qu'il l'hôtel va quoi, tout yo servi dossier. Sécurité sociale, sécurité. Mignon, on doit rêver des voyeurs, leur supposé en madame, que par école pour assister. Yo ka double doit trouver, et puis j'en yo grand ouvert, ne yo ka couler de l'eau, si yo ka même clairé, à force ça yo ka weya, na yo satisfaction. Sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, aïe 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 aïe, sécurité, oi 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 oi, sécurité, aïe aïe aïe.
Bougalou, bougalou,
hey.
Bougalou, bougalou,
hey.
Kalalou, kalalou,
hey.
Chalou, chalou,
hey.
Kolbou, kolbou,
hey.
Sadou, sadou,
hey.
Dodo, dodo,
hey.
Oui, ben, je garde, oui.
Cette sécurité sociale, louange amusée de l'État-providence, interprétée en 1970 par le chanteur martiniquais Maurice Alcindor, né en 1930 et qui, après avoir commencé à travailler tôt, était devenu chansonnier, musicien, publiant une dizaine d'albums dans différents styles, comme ici, où sur un rythme bougalou, il chante la difficulté des jeunes à s'en sortir. Car la départementalisation de 1946 ne règle pas tous les problèmes. De nombreux cas de ségrégation persistent en Guadeloupe comme en Martinique. Jusque dans les années 60, ainsi, certains bars restent réservés aux Blancs et le créole interdit des cours d'école. Et si les Antillais jouissent de la sécurité sociale, à l'inverse de la métropole où la propagande nataliste encourage le rattrapage démographique, aux Antilles, on prône les vertus de familles restreintes. Il ne manquerait plus qu'ils se multiplient à l'infini.
Matayango, a kakuye le répondait Matayango.
Yo 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 Matayango,
en nous voit appelant mais Matayango.
Yo 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 Matayango,
en commandant bonjour Matayango.
Yo 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 Matayango,
kakuye le répondait Matayango.
Face à la persistance de ces discriminations, certains musiciens antillais décident à la fin des années 50 d'utiliser la musique comme vecteur de revendication politique, ressuscitant pour l'occasion l'esprit marron, celui des esclaves qui jadis fuyaient les exploitations pour vivre libres dans les bois. Et au passage, ils ressuscitent un instrument de l'époque esclavagiste qui s'en allait mourir d'oubli, le guoka, ce gros tambour fait d'un gros quart, soit une barrique de vin ou un tonneau de salaison recouvert d'une peau de chèvre et qui était devenu l'étendard et le symbole de la résistance des esclaves. les maîtres des plantations, devinant quels germes de révolte pouvaient bien véhiculer leurs rythmes tribaux, en interdisaient d'ailleurs l'usage ou en limitaient la pratique à une soirée par mois. Transmis de génération en génération, le guoka, ce tambour et les danses qu'il rythme, suivant cette allure plus ou moins rapide et saccadée, traduisant différents sentiments, mêlant exhortations en créole, chants et danses, convoquant la mémoire des ancêtres et le souvenir des oppressions passées, tendant un fil entre les stigmates de l'esclavage, ceux de la colonisation et l'asservissement des salariés sous-payés dans leurs usines. Ces années 60, beaucoup dans la bonne société guadeloupéenne y voient la persistance d'une musique de vieux nègres. L'Église elle-même la méprise au nom de la nécessaire assimilation de ces nouveaux Français au sein de la République, leurs prêtres blancs refusant d'inhumer les corps veillés au son des vibrations du guoka. Cette musique qui va devenir le porte-voix identitaire des Antillais sous les doigts, entre autres, d'un certain Guy Conquête.
Écoutez, moi voisine, des petits mots faciles, consacrés, changez autres. Voisine, écoutez-moi, pas faire des autres.
Écoutez, moi voisine, des petits mots faciles, consacrés, changez autres.
Qu'à trouver en voisinage, ça va bien vous autres.
Écoutez-moi, voisine, des petits mots faciles, consacrés, changez autres.
Au lieu d'autres papiers, j'ai besoin de mettre dans la main avec sincérité, bonne harmonie. Écoutez-moi, pas qu'à autres vous mettre.
Écoutez-moi, voisine, des petits mots faciles, consacrés, changez autres.
Camarades, je voisine, des voisins, voisines, écoutez-moi, pas faire des ordres.
Jukebox, ce soir, les Antilles françaises, danse et décadence. Exemple de guoka, assez fait cancan, Guy Conquête. Né en 1950 dans le quartier de Jabrin, à Bémao, à la jonction de Basse-Terre et de Grande-Terre, Conquête est le fils d'une certaine Mansoso, une coupeuse de canne à sucre, illettrée et obligée dès lors de tremper son pouce dans l'encre pour voter, mais une femme courageuse, déterminée et passionnée par la transmission des traditions locales.
Balayé, balayé, gadaboula. Balayé, gadaboula, balayé, gadaselé, galao.
Balayé, balayé,
grâce à Mansoso, mais aussi à un grand joueur de guoka, un pêcheur surnommé Carnot, son fils Guy baigne dans la musique dès l'enfance. Il fréquente les lewos, ces bals de campagne où au son des tambours on danse jusqu'à l'aube, où les musiciens et le chœur se répondent, tandis que, un à un, les danseurs, pieds nus dans la poussière, entrent dans la mêlée, les femmes jouant des plis de leurs robes. Rapidement, l'enfant se met à scander les travaux des champs ou les veillées mortuaires et, par sa jeunesse et son talent, il parvient à faire de cet instrument menacé de disparition le vecteur d'un nouveau militantisme, le transportant au cœur des villes, dans le dédale et les rues de carénage, en l'occurrence le quartier chaud de Pointe-à-Pitre, pour lui accoler des revendications nouvelles et lui redonner ses lettres de noblesse. Ceci également grâce à sa rencontre avec une figure de la musique antillaise, un producteur guadeloupéen sur lequel nous allons maintenant nous arrêter un moment, un certain Henri Deps.
Je demande où le soleil se couche et tu t'éloignes de moi quand je te touche. Je veux entendre sortir de ta bouche, c'est toi petit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si je pouvais, je te donnerais la lune, malgré tous tes caprices et ta rancune. Tu sais bien que pour toi mon cœur s'allume, dis-moi c'est petit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh yeah, oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer. Ces mots si souvent murmurés sont toute la vie. Oh yeah, oh yeah, si tu veux tout peut changer. Écoute mon cœur cri blessé, viens vers moi chérie. Tu sais aussi que tout mon corps se glace si tu ne me regardes quand tu passes. Dès lors je deviens fou, tout me tracasse. Je crie partout, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si mon cœur sombre dans le chagrin, arrivant d'un bonheur sans lendemain, je n'ai qu'un espoir dans le temps qui vient, t'entendre dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh yeah, oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer. Ces mots si souvent murmurés sont toute la vie. Oh yeah, oh yeah, si tu veux tout peut changer. Écoute mon cœur qui blessé, viens vers moi chérie.
Autre style, autre ambiance, après le Guoka, ce chant de séduction, ces petits je t'aime, signé Daniel Forestal et enregistré au début des années 1960 par Henri Deps. À cette époque, aux Antilles, il n'existe pas beaucoup de moyens d'enregistrer de la musique. Il existe bien les disques Emerald, une maison créée en 1953 par Marcel Mavunzi et qui domine le marché. Puis en 58, s'ouvre rue Frébault, l'une des principales artères du vieux Pointe-à-Pitre, un lieu qui va devenir pendant les décennies suivantes le principal laboratoire de création de la musique guadeloupéenne, les studios d'Henri Deps. Né d'une famille d'origine libanaise, son arrière-grand-père vendait des chapelets et de l'eau bénite de Lourdes. Deps est doté d'une fière moustache, d'un accent créole pur jus et d'un sens de l'autopromotion sans pareil qui feront son succès. Après avoir commencé comme marchand de rue, refourguant canif et après rasage sur le marché, il ouvre un magasin de vêtements où l'on trouve aussi des disques, vu que Deps est fan de musique. Il décide ensuite de transformer son propre magasin en studio, l'équipant d'un enregistreur de pistes avec lequel il grave à tour de bras des centaines de 45 tours, à commencer par ses propres compositions, comme le morceau que l'on entend actuellement, « Douce combasse », une biguine accompagnée au saxophone par un certain Édouard Benoît. « grave aussi des titres chantés comme ce « Moins sont mal errés » en 1962 et qui raconte « Je suis pauvre, je vois la misère, je ne veux pas mourir, je n'ai pas le temps puisque je travaille pour atteindre le bonheur. Quand je pense au loyer à payer, aux enfants, au fait qu'ils puissent tomber malades, je ne m'en sortirai jamais, je ne sais plus comment faire, mon rêve est si loin. » Sont mal errés, qu'on peut traduire par « Tu es malheureux », chanté par Paul Blamart et composé par Henri Deps, publié en 1962. Car la situation générale, ce début des années 60, reste en Guadeloupe pour le moins incertaine, malgré les discours rassurants de la métropole, archive Charles de Gaulle de visite en Guadeloupe le 3 mai 1960.
« Depuis que je n'ai eu l'honneur et le plaisir de vous voir, elle a mis ses affaires en ordre. » À l'intérieur d'elle-même, elle a d'abord réformé ses institutions de telle sorte que ses pouvoirs publics aient chacun leur tâche déterminée. Le gouvernement doit gouverner, le Parlement doit légiférer, la justice doit juger, et le chef de l'État doit être en mesure de garantir l'avenir du pays et le fonctionnement de la République. C'est ce qu'il fait, je vous en prends tous à témoin.
À en croire De Gaulle, la situation en Guadeloupe n'est donc pas si mauvaise. En témoigne par exemple la modernisation de l'île, la création de kilomètres de routes et l'explosion du nombre de voitures. Pourtant, sur place, ça bouillonne, notamment parmi la jeunesse, les moins de 20 ans qui représentent la moitié de la population totale et qui ne se voient pas d'avenir. La départementalisation n'a pas, de fait, entraîné de décolonisation économique. Aucune nouvelle industrie ne s'est implantée sur place. On est passé des plantations, avec leur vieille sociabilité, à une course effrénée, celle de la société de consommation et du chômage de masse. D'autant que l'agriculture va mal, la plupart des terres est encore aux mains des gros propriétaires et les usines de canne à sucre ferment les unes après les autres. L'exode rural pousse la misère vers les faubourgs dans des cases de bois et de tôle sans eau courante. En 1959, un accrochage entre un blanc, un automobiliste métropolitain et un noir, un motocycliste martiniquais, occasionne 3 jours d'émeute à Fort-de-France. Une part de la jeunesse se radicalise.
C'est l'argent pour moi s'acheter plus de 10 filles et un garçon pour soin tous les jours. Aïe la misère,
aïe la misère,
dis maman et moi pas qu'à manger.
Aïe la misère,
la misère, la misère,
aïe la misère,
maman et moi qu'à prendre.
Aïe la misère,
de 10 filles pour soin tous les jours. L'homme s'irait compagnie.
Aïe la misère,
la misère qu'a fait moins mal.
Aïe la misère, 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 aïe la misère.
La misère, texte poignant du Martiniquais Génaud exilé. Face à ces conditions d'insalubrité, de grands projets d'assainissement sont certes lancés, notamment à Pointe-à-Pitre, mais ils traînent en longueur. Les grands ensembles, dont on vante la modernité et le confort, ne permettent pas les sociabilités d'antan, et puis de toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Les salaires trop bas font qu'on se nourrit essentiellement de bananes, de riz ou de morue. La viande est hors de prix. Comment combattre la malnutrition, titre en 1967 le quotidien France Antilles. Tandis que les Antilles britanniques accèdent à l'indépendance, la France, elle, met en place le BUMIDOM, le Bureau pour la migration des DOM, destiné à envoyer les moins qualifiés vers la métropole, où ils finissent la plupart du temps employés de maison ou aides-soignantes pour les femmes, ou dans l'armée et la RATP pour les hommes. Dans l'esprit des politiciens de la métropole, il s'agissait peut-être d'arracher cette jeunesse à l'oisiveté et au chômage inéluctable, de lui offrir une formation, mais pour les premiers concernés et leurs familles sur place, c'en est trop. Ce sentiment d'être traité comme des sous-hommes à la place de qui il faudrait penser. victime, parce que noir, de ce racisme ordinaire qui fait qu'un jour comme un autre, un 20 mars 1967, un commerçant blanc lâche son chien contre un vieux cordonnier noir, qui plus est infirme, à Basse-Terre.
Nous sommes aujourd'hui mardi, 21 mars, premier jour du printemps, il est juste 7 heures.
Des incidents ont éclaté hier à Basse-Terre, à la Guadeloupe. Selon des témoins, le propriétaire d'un magasin de chaussures a lancé son chien sur un cordonnier ambulant habitué à travailler sur les trottoirs et notamment à la hauteur de son magasin. La foule a réagi violemment, elle a saccagé le magasin de chaussures et brûlé les deux voitures du propriétaire qui a échappé de justesse au lynchage. Les CRS et la troupe ont isolé Basse-Terre et le préfet du département, M. Bolotte, a lancé un appel au calme.
Résultat des incidents, trois jours d'émeute. Ce printemps 67 en Guadeloupe, soyons clairs, la marmite boue. Pointe-à-Pitre, le 26 mai 1967, à quelques rues de la place de la Victoire. Là, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, se tient depuis la veille une rencontre tendue entre syndicats et patronats. À cette époque, on l'a dit, l'industrie sucrière est en crise. Plusieurs usines ferment et de nombreux paysans se recyclent dans le bâtiment qui connaît alors un véritable boom. Pointe-à-Pitre, notamment, est couverte de chantiers aux mains d'entreprises dirigées par des Blancs, des Béquets ou par des étrangers. Les ouvriers, eux, réclament des hausses de salaire, 2,5% d'augmentation. Devant le bâtiment, un millier de personnes s'est rassemblé pour soutenir ces ouvriers jouant du tambour. Mais au fil des heures, tandis que les négociations semblent dans l'impasse, il se murmure qu'un représentant du patronat, un certain monsieur Brizard, aurait lancé « Quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». Avéré ou pas, cette phrase met le feu aux poudres. Des jeunes s'échauffent, sur le marché aux poissons voisins, ils récupèrent les conques des lambis, ces gros coquillages qu'ils lancent comme des pavés sur les gendarmes mobiles et les CRS. Les forces de l'ordre, ordonnant la dispersion, ouvrent ensuite le feu. Vers 15h30 tombe le premier mort, un certain Jacques Nestor, 26 ans, membre du Gong. Ce qui n'était qu'un simple mouvement social devient alors une révolte générale.
J'ai entendu une première détonation.
Archives France Inter, 4 mars 2009, Solange Yvon Condrieu.
Il y avait France Antille qui brûlait. J'ai cru que c'était une vitre de France Antille qui éclatait. Et j'ai entendu une deuxième détonation. À ce moment-là, je me suis senti soulevé de terre et je suis tombé. J'ai vu ma jambe droite qui était presque arrachée. J'avais le dos tourné. Ils m'ont tiré dans le dos comme un lapin. Bon, j'ai fait le mort. Parce qu'il faut vous dire que ce jour-là, les forces de l'ordre avaient bien reçu l'ordre de tirer sur tous ceux qui étaient noirs et qui bougeaient en utilisant toutes armes. Et il n'y avait aucune sommation et aucun couvre-feu.
Toute la nuit, une sorte de guérilla urbaine se prolonge dans les rues en terre battue, des quartiers populaires rougis du sang versé. Les policiers pourchassent les jeunes qui ont récupéré des armes dans les armureries. Le lendemain, les lycéens de Pointe-à-Pitre manifestent en soutien aux grévistes. La préfecture évoque 8 morts, personne n'y croit. La Guadeloupe est malade, chante le Goka de Guy Conquête. La Guadeloupe malade, Guy Conquête, chanson étendard des émeutes de 1967, dont bien plus tard, en 83, le ministre de l'Outre-mer reverra le bilan à la hausse, admettant 87 victimes.
En crier à moi, en crier à l'assassin, oh, en crier pour les jeunes déclarer la guerre à la Guadeloupe.
Nestor tombé, t'arrêtes mes mailles, tombé, messieurs, c'est comme Guadeloupe.
les Antilles sont rendues à leur morosité sociale.
Le chômage est toujours là. Alors pour le fuir, on s'en va vers la métropole. 2500 Guadeloupéens et 1500 Martiniquais quittent chaque année leur île. Le préfet de la Guadeloupe explique comment.
Dans le cadre du Bumidom, la métropole organise rationnellement la migration des jeunes Guadeloupéens en France. Cela permet de donner du travail sur le territoire métropolitain chaque année à 2500 jeunes Guadeloupéens qui sont ici formés dans les établissements techniques et dans le cas de l'association guadeloupéenne de formation rationnelle de la main-d'œuvre.
Oui, mais voilà, une fois parti, il est bien difficile de revenir. 7000 km, cela se chiffre sur un billet d'avion.
Nous sommes isolés de la métropole parce que les voyages coûtent trop cher, que nous ne pouvons nous déplacer à cause d'un tarif qui est absolument hors de la portée des bourses normales, même moyennes, et que, en fait, les seules personnes qui peuvent se déplacer, ce sont les fonctionnaires qui ont les voyages payés, et que les jeunes se sont exilés en métropole parce qu'ils ne peuvent pas revenir voir leur famille, ce qui est tout à fait normal. Et ils sentiraient beaucoup moins l'exil si, une fois par an, ils pouvaient revenir voir leur famille à la Martinique.
Non, ce début des années 70, ceux qui descendent des avions sur les aéroports de Martinique portent sur les lieux un regard déconnecté. Ce sont des touristes métropolitains débarqués par milliers grâce à l'explosion du transport aérien et du tourisme. Les Antilles qui, en retour, exportent vers la métropole les sonorités zouk de Kassav et Malavoie. Leur studio tournant à plein régime, notamment après la période du carnaval, calibrant les futurs succès des discothèques de la métropole. Le zouk, le mot apparaît pour la première fois en 72 dans le titre d'un album signé d'un certain Henri Guédon, percussionniste et chanteur martiniquais. Deux ans plus tard, il sort ce magnifique « Tout à tout fémé » racontant l'errance d'un homme à travers une ville frappée par la pauvreté et où tout, commerce ou hôtel, semble fermé. Métaphore qui pourrait être celle des Antilles où régulièrement ressurgissent les révoltes face aux mêmes problèmes, mais ça, c'est une autre histoire.
Pas tout fait, mais 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 pas tout fait, m la smasher tout l'hôtel complet. Aïe 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 mon Dieu, faut mec cap faire. Tout pas tout fait main, tout pas tout fait main.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox ce soir 1967-1974. Les cadences troubles des Antilles françaises, la réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox où vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, à lire La mère patrie, l'ouvrage signé Jacques Dumont chez Fayard, à écouter deux compilations récentes, l'une consacrée par les Anglais de Strut Records au label d'Henri Deps, l'autre concoctée par les Français de Born Bad Records intitulée Antilles méchants bateaux. Jukebox, c'était Pascaline Bonnet et Antoine Villoz à la préparation avec l'aide des services de Lina et un coup de main de Geneviève Angéli. À la technique, c'était Stéphane Desmond, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Chinois la dit moi pas ni diri. Zarab la dit moi pas ni pétrole. Et juif la dit moi pas ni l'argent. Moi pas ni le fait pour les mes cigarettes là. Hey.